Vous écoutez RFI, il est 8h à Paris, 11h30 à New Delhi et 11h à Islamabad.
RFI Matin.
Bonjour Jeanne Bartoli.
Bonjour Andréane Mélard, bonjour à tous.
Dans ce journal, une escalade militaire qui fait craindre le pire entre l'Inde et le Pakistan.
Oui, l'Inde a mené des bombardements cette nuit en territoire pakistanais. New Delhi présente ses opérations comme une riposte proportionnée contre des cibles terroristes. Le Pakistan parle, lui, d'un acte de guerre. On compte déjà plus de 30 civils tués. Les détails dès le début de ce journal. C'est un rituel codifié, millimétré même, qui va débuter dans quelques heures au Vatican, jour J pour le conclave qui doit désigner le successeur du pape François. Reportage au Vatican dans ce journal. Dans cette édition également, Friedrich Merz, le nouveau chancelier allemand, attendu à la mi-journée à Paris, déjà fragilisé par la journée chaotique d'hier. Un triste anniversaire, voilà 3 ans jour pour jour que les Français Cécile Kohler et Jacques Paris sont accusés d'espionnage, emprisonnés en Iran. Emmanuel Macron annonce à l'instant que la France agit sans relâche pour leur libération. Et puis après ce journal, les sports et la liesse hier soir à Milan.
Giusa, Frattesi,
Davide Frattesi qui envoie l'Inter Milan en finale de la Ligue des champions de football. 4-3 pour l'Inter face au FC Barcelone.
Le monde ne peut pas se permettre une confrontation militaire entre l'Inde et le Pakistan.
Déclaration dans la nuit d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, à l'image de l'inquiétude de la communauté internationale ce matin après les frappes menées par l'armée indienne contre des cibles présentées comme terroristes en territoire pakistanais, au Cachemire et au Punjab pakistanais. Le Pakistan affirme de son côté avoir riposté et abattu 3 avions de chasse, 2 drones indiens. Bonjour Muriel Paradon.
Bonjour.
Grand reporter au service international. Muriel, ces bombardements ont déjà fait des victimes. Le Pakistan affirme qu'au moins 26 civils ont été tués.
Oui, 26 civils, dont au moins une femme et un enfant, selon le Pakistan, tandis que l'Inde annonce 8 morts de son côté dans un village. Dernier bilan d'une nuit d'escalade sans précédent depuis 20 ans. Il est environ 2 heures du matin, heure locale, lorsque l'armée indienne annonce l'opération Sindoor, des frappes aériennes sur le Cachemire et le Punjab pakistanais. L'Inde dit avoir ciblé et détruit 9 camps terroristes en réponse à l'attentat d'il y a 2 semaines sur son sol qui avait fait 26 morts. Les sites militaires pakistanais ne sont pas visés et la riposte est proportionnée, assure New Delhi. Mais un témoin joint au Punjab pakistanais par notre correspondante à Islamabad dit ne jamais avoir vu un tel déluge de feu. Les frappes indiennes ont aussi endommagé, on l'apprend à l'instant, un barrage hydroélectrique selon l'armée pakistanaise. Islamabad a répondu dans la nuit par des tirs d'artillerie le long de la frontière contestée du Cachemire et annonce donc avoir abattu 5 avions, dont 3 rafales. Des photos de débris de carlingues sont publiées. Une source sécuritaire indienne citée par l'AFP confirme de son côté que 3 chasseurs de l'armée de l'air indienne se sont écrasés.
Muriel Paradon du service international. On continue de suivre la situation sur RFI entre les 2 puissances nucléaires. Nous serons avec notre correspondant en Inde dans le prochain journal. À noter que Donald Trump a lui dit espérer que les affrontements s'arrêtent très rapidement.
Ce sera tout à l'heure sous les ors et les marbres de la basilique Saint-Pierre de Rome.
Les cardinaux célèbrent ce matin la messe précédant le processus d'élection du pape, le fameux conclave qui s'ouvre donc aujourd'hui en présence de 133 cardinaux électeurs venus de 70 pays. C'est un record. Le compte à rebours débutera réellement en milieu d'après-midi avec l'entrée en procession des cardinaux dans la chapelle Sixtine, à l'isolement drastique. Aucun téléphone portable ne sera autorisé et les réseaux de télécommunications seront coupés entre les murs de la cité du Vatican. C'est ce soir qu'aura lieu un tout premier vote sur la place Saint-Pierre. Tout est prêt pour le cérémonial et les touristes et pèlerins sont évidemment aux premières loges. Reportage de Nicolas Roca.
Dans une lente procession rythmée par des chants religieux, des hommes portent une croix en marchant vers la place Saint-Pierre. Les pèlerins côtoient les touristes aux casquettes colorées vissées sur la tête. Tous attendent la première fumée qui sortira bientôt de la cheminée installée sur la chapelle Sixtine. Jean, venu de France, ne veut rien rater.
J'ai noté les petits créneaux à regarder de manière spécifique et on s'apprête à tout lâcher pour venir rappliquer ici rapidement et espérer entendre le Habemus Papam. On essaie de trouver des indicateurs du coup qui nous diront fumée blanche, fumée blanche. Et puis là, paf, on arrive.
Laurie est venue des États-Unis avec ses deux filles.
J'espère que le prochain pape sera aussi humble et modeste que le pape François et que l'Église en sortira renforcée.
Dimitrio, drapeau des Philippines à la main, a déjà un profil en tête.
Je prie que le prochain pape soit le cardinal Luis Antonio Tagle des Philippines. Il est vraiment brillant, avec un grand savoir.
Le message importe plus que la nationalité pour Lorenzo, habitant de Rome.
J'espère que le prochain pape sera un homme capable de guider l'Église pour répondre aux attentes de nombreuses personnes souffrant de la guerre et aux grandes questions contemporaines.
Les 133 cardinaux électeurs réunis au Vatican ont appelé ce mardi à une paix juste et durable en Ukraine, au Moyen-Orient et dans d'autres parties du monde. Nicolas Rocard, Rome, RFI.
Et justement, dans un texte publié par le Vatican à l'occasion de sa dernière prière de l'Angélus le dimanche de Pâques, le pape François était revenu notamment sur le triste anniversaire du début du conflit au Soudan, une guerre civile régulièrement qualifiée d'intolérable par le pape François.
Le Soudan qui accuse les Émirats Arabes Unis d'armer les paramilitaires des FSR.
Et le pays a rompu hier ses relations diplomatiques avec les Émirats. Cette annonce intervient alors que Port-Soudan, la capitale de facto du Soudan, subit depuis dimanche des frappes de drones qui ont visé les infrastructures stratégiques. La dernière a eu lieu ces dernières heures contre une base militaire. Hier, le général Al-Burhan, le chef de l'armée soudanaise, a appelé la population à ne pas perdre espoir face à cette escalade. Précision, Lisa Fabian.
Une colonne de fumée sombre s'élève au-dessus du principal port soudanais en arrière-plan de la vidéo. Face caméra, le général Al-Burhan fait appel à la sagesse du peuple soudanais, sommé de ne pas trembler face à de tels incidents.
Le peuple soudanais continuera d'écrire son histoire, car c'est un peuple qui ne s'effondre jamais, qui se tient droit, qui sait être patient. Nous avancerons unis pour faire plier cette milice, pour la faire tomber et pour faire tomber ceux qui la soutiennent. Nous disons à tous ceux qui ont attaqué les Soudanais que l'heure de la rétribution viendra. Par la grâce de Dieu, les Soudanais sortiront victorieux.
Le Soudan accuse les Émirats Arabes Unis de fournir des armes sophistiquées au FSR. Le ministre de la Défense, Yassine Ibrahim, a dénoncé une agression contre la souveraineté du pays.
À la suite de cette agression continue, le Conseil de sécurité et de défense a décidé de déclarer les Émirats Arabes Unis comme un État agresseur, de rompre les relations diplomatiques avec cet État et de fermer l'ambassade et le consulat général du Soudan. Le Soudan se réserve le droit de répondre à l'agression par tous les moyens nécessaires pour défendre la souveraineté du pays.
En plus du port, l'aéroport, des dépôts de gaz et de pétrole, une base militaire ou encore une station électrique ont été pris pour cible à Port-Soudan.
Elisa Fabian du service Afrique d'RFI.
RFI 8h08 à Berlin, à peine nommé, déjà fragilisé.
Et Friedrich Merz se rend, comme le veut la tradition, à Paris aujourd'hui pour son premier déplacement à l'international. Il rencontre ce midi Emmanuel Macron après une journée rocambolesque hier, puisque Friedrich Merz a eu besoin d'un deuxième vote pour se faire élire chancelier. Pascal Thibault, vous êtes avec nous en direct de Berlin. Alors, ce faux départ, Pascal, augure-t-il de tensions au sein de la nouvelle coalition?
Bien, c'est ce que l'avenir devra nous dire. En tout cas, hier, les mines étaient défaites au Bundestag. Les commentaires aujourd'hui sont unanimement négatifs et parlent d'un départ raté. Le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement a finalement eu lieu hier soir à 22h. Retard expliquant cela avec les 10 litres de bière que Friedrich Merz avait ramené de son fief. L'échec au premier tour est sans doute le reflet des semaines passées. La campagne polarisante du nouveau chancelier a heurté des sociodémocrates qui ont pu hier sanctionner Friedrich Merz au premier tour, et on ne peut pas exclure que des élus conservateurs aient sorti un carton rouge après la volte-face de leur président qui a sacrifié l'orthodoxie budgétaire, vache sacrée de la droite allemande, sur l'autel de la Realpolitik. Des défections lors de l'élection d'un chancelier, c'est monnaie courante, mais les impétrants jusqu'à présent ont toujours été élus au premier tour. Le départ raté d'hier, alors, ne sera-t-il qu'un ultime soubresaut de la campagne électorale et des négociations des dernières semaines, ou bien la nouvelle coalition s'annonce-t-elle aussi chaotique que la précédente? Pour démentir cette hypothèse, Friedrich Merz devra rapidement convaincre. 6 Allemands sur 10 ne pensent pas qu'il sera un bon chancelier.
Pascal Thibault en direct avec nous de Berlin. Autre déplacement, toujours à Paris, celui du président syrien par intérim, Ahmed Al-Shara. Il sera reçu dans l'après-midi par Emmanuel Macron. C'est son premier déplacement dans l'Union européenne. Et la droite et l'extrême droite française critiquent vivement l'invitation faite à l'ancien dirigeant du groupe islamiste Ayad Tahrir Al-Sham. Emmanuel Emmanuel Macron dit agir sans relâche pour les deux otages français détenus depuis 3 ans maintenant en Iran. Il le dit ce matin sur le réseau social X. Cela fait donc 3 ans jour pour jour que Cécile Kohler et Jacques Paris, accusés d'espionnage, sont emprisonnés en Iran et aucun signal en faveur de leur libération n'a pour l'instant été donné par Téhéran. Sur place, les conditions de détention sont particulièrement difficiles, Pierre-Olivier.
Depuis plus de 1000 jours, Cécile Kohler, une professeure de lettres, et Jacques Paris, son compagnon, sont détenus dans la sinistre prison d'Evin à Téhéran. Plus précisément, dans la section 209, celle réservée aux prisonniers politiques. Shirin Ardakani est l'avocate de Cécile Kohler.
On sait qu'elle dort à même le sol sur des couvertures de fortune et ne dispose en réalité pas de lit, privée d'un accès à l'extérieur dans une cellule de quelques mètres carrés sans lumière naturelle. En soi, ces conditions dégradées de détention participent évidemment à une forme de torture psychologique.
À l'occasion des 3 ans de détention de Cécile Kohler et de Jacques Paris, il est primordial, selon l'avocate, de communiquer un maximum sur leur situation.
Il y a une urgence absolue à médiatiser le sort des victimes parce que ça participe à la guerre, en réalité, de l'information contre un État ravisseur. Ce que redoute le plus le régime de Téhéran, c'est qu'on vienne faire obstacle à sa tentative de normalisation au plan des relations internationales.
Dans le contexte de discussions très sensibles sur le nucléaire iranien, Paris accuse Téhéran d'utiliser ses détenus pour tenter d'obtenir la levée des sanctions.
Pierre-Olivier, sachez que la sœur de Cécile Kohler, Noémie Kohler, est l'invitée des RFI Matin dans 10 minutes. Enfin, Jeanne, quand le poids de l'héritage familial devient écrasant.
C'est le thème développé dans le nouveau film de Karim Moussaoui. Ça s'appelle L'Effacement, un récit qui dépeint le parcours d'un jeune homme en quête de son identité face à la figure paternelle. Elisabeth Le Carré.
J'ai besoin de toi là-bas. Il y a beaucoup de gens qui veulent ma peau. Tu verras demain te présenter au nouveau responsable.
Comment affronter un héritage trop lourd ? Reda, la petite vingtaine, vit dans l'ombre de son paternel qui lui dicte tous ses choix. Tout bascule quand le patriarche meurt et que, phénomène étrange, Reda ne voit plus soudain son propre reflet dans les miroirs.
Qu'est-ce qui se passe ?
L'Effacement est adapté d'un roman de Samir Toumi, paru en 2016. Karim Moussaoui.
Je l'ai interprété comme une impossibilité d'avoir une image mentale de soi-même, c'est-à-dire ne sachant pas quel caractère on a, quels sont nos désirs, nos envies, nos rêves, voilà, tout ça. C'est comme ça que je l'ai interprété, et c'est un personnage qui n'a jamais pu se retrouver face à lui-même.
Qu'est-ce que tu fais là ?
Je voulais te voir.
Désolé, je ne vois pas ce soir.
Avec cette métaphore puissante qui symbolise l'absence d'identité propre du personnage, Karim Moussaoui décrit la violence invisible du patriarcat et des diktats familiaux. En tressant avec brio, réalisme et fantastique, il dessine le portrait d'une société où les pères de l'indépendance n'ont pas permis aux générations suivantes de s'émanciper du récit fondateur.
Elisabeth Le Carré.
Et Jeanne Bartoli pour le journal. Merci à vous, 8h13 à Paris, on passe au journal des sports. Avec évidemment à la une ce matin Victor Messistrano, le foot et la Ligue des Champions au lendemain d'une extraordinaire demi-finale.
Où l'Inter Milan et le FC Barcelone se sont rendus coup pour coup après le match nul 3 partout à l'aller en Catalogne. Second épisode tout aussi ébouriffant hier, l'Inter menait 2-0 à la mi-temps. Le Barça a tout renversé pour prendre les devants 3-2 après un but de Rafinha à la 87e minute. Mais le défenseur italien Francesco Acerbi a égalisé à la 93e et à la 99e, c'est son compatriote Davide Fratesi qui a fait exploser San Siro. 4-3 donc après prolongation, 7-6 sur l'ensemble des deux matchs. Après avoir sorti le Bayern Munich en quart, l'équipe de Simone Inzaghi a donc réalisé un nouvel exploit retentissant en demi.
Mes joueurs ont été extraordinaires ce soir. Ça a été un match extrêmement difficile face à une équipe de classe mondiale comme contre le Bayern Munich. Nous avons joué 4 excellents matchs et c'était la seule façon pour nous d'atteindre la finale. Peu de gens croyaient en nous pour aller aussi loin et maintenant nous sommes très fiers pour nos supporters. Ils n'ont jamais laissé un siège vide à San Siro et nous voulions partager cette belle soirée avec eux. Mes félicitations aussi au FC Barcelone qui a joué 2 grands matchs.
perché hanno fatto due grandi partite anche loro.
Le Barça et son prodige Lamine Yamal qui devront donc encore patienter avant de remporter un trophée qui échappe au club depuis 2015. De son côté, l'Inter retourne en finale de la Coupe aux grandes oreilles 2 ans après celle perdue contre Manchester City. Cette fois, Andréan, ce sera contre le Paris Saint-Germain ou Arsenal.
Les deux équipes qui se retrouvent ce soir au Parc des Princes pour la seconde demi-finale retour. Petit avantage aux Parisiens pour l'instant.
Ils sont revenus de Londres avec une victoire précieuse 1-0. Le PSG va donc tenter de conserver cet avantage afin d'obtenir une deuxième qualification en finale après celle de 2020, sans public, en pleine période du Covid. L'an dernier, pour les débuts de Luis Enrique sur le banc, Paris avait manqué l'occasion en butant sur Dortmund, mais depuis l'équipe a progressé selon l'entraîneur espagnol.
Dans le processus de construction d'une équipe, c'est normal qu'il y ait des choses à améliorer par rapport à la première saison. Là, c'est la deuxième saison, on est dans une année de croissance, on a plus confiance en nous sur ce qu'on sait faire, sur nos ressources. Mais notre objectif à l'avenir sera d'améliorer encore tout ça. On vit une belle évolution et nous avons l'ambition de continuer à avancer et de faire mieux que l'année dernière.
Quemando etapas y seguir mejorando los resultados de la temporada pasada.
Luis Enrique au micro de Cédric De Oliveira. Cédric, qu'on retrouvera au commentaire de ce PSG Arsenal demi-finale retour de Ligue des Champions à vivre en direct et en intégralité sur RFI, prise d'antenne 18h50 temps universel.
Autre compétition continentale et autre demi-finale, Victor, celle de l'Euroleague en basket.
Et on connaît désormais le tableau du dernier carré, un Final Four qui se jouera à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis du 23 au 25 mai. Monaco sera de la partie après avoir remporté un match décisif 85-84 contre le FC Barcelone. Les Monégasques qui affronteront les Grecs de l'Olympiakos, Andréane.
Merci Victor Messistrano. Et bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Andréane.
C'est l'événement de ce mercredi 7 mai, le début du conclave à Rome. 133 cardinaux électeurs vont s'enfermer à partir de la fin d'après-midi et choisir qui sera le prochain pape. Les yeux et les oreilles d'une partie du monde seront donc rivés sur la fumée qui s'élèvera au-dessus de là où ils seront enfermés. Blanche si un pape est élu, noir si ce n'est pas le cas. En attendant, avec vous Stéphane, pour aujourd'hui l'économie, on s'intéresse ce matin à un autre sujet pris très au sérieux au Vatican et qui fera même partie des grands défis à venir pour le prochain pape, les finances de l'Église.
Oui, car derrière la grandeur de la basilique Saint-Pierre et la richesse non moins culturelle du Vatican se cache une réalité financière bien plus fragile. En 2023, le déficit budgétaire du plus petit État au monde était de 83,5 millions d'euros sur un budget d'1,2 milliard. Et cette situation n'est pas nouvelle. Depuis plusieurs années maintenant, ce déficit aussi entre 50 et 90 millions d'euros par an, l'équivalent de pratiquement 7% de son budget. Cela a d'ailleurs provoqué des remous l'hiver dernier lors de l'établissement du budget pour 2025. Trop ambitieux, trop irréaliste. Il a été rejeté pour n'être qu'adopté seulement à la mi-mars après de nombreux ajustements.
Et comment est-ce qu'on peut expliquer ça, hein ?
Alors, il faut regarder du côté des recettes tout comme des dépenses. Finalement, côté recettes, elles sont en baisse, notamment parce que les fidèles donnent moins. Le problème, c'est que ces dons représentent une part essentielle des rentrées d'argent du Vatican. L'autre difficulté majeure, c'est la gestion du patrimoine immobilier. Le Saint-Siège, tenez-vous bien, possède 5000 biens à travers le monde, mais leur gestion est loin d'être optimale. 14% d'entre eux sont loués au prix du marché. Les autres le sont à des tarifs préférentiels, soit à des employés ou à des proches de l'Église. Chaque année, ce sont 20 à 25 millions d'euros de ce patrimoine qui sont ainsi vendus pour limiter les pertes.
Donc là, on parle des rentrées d'argent, mais il y a aussi le sujet des dépenses, Stéphane.
Exactement, avec un fonds de pension qui concerne près de 5000 employés ou anciens employés du Vatican. Il est en cruel déficit entre 350 millions et 1 milliard d'euros. En novembre, le pape François a même dû remplacer en urgence tout le conseil d'administration de ce fonds, tant la situation était jugée critique. Bref, Andréane, le Saint-Siège dépense bien plus qu'il ne gagne en raison d'importantes failles de gouvernance.
Alors, le futur pape devra continuer le travail engagé par François, à savoir assainir les finances du Vatican et les rendre bien plus transparentes.
C'est vrai, d'autant que le Vatican est l'un des rares États à ne pas publier intégralement ses résultats économiques et financiers. Le prochain souverain pontife devra faire face face à ces nombreux défis car les efforts à produire se heurtent à d'importantes résistances en interne et à une bureaucratie vaticane réputée justement pour son opacité et son amateurisme en matière de gestion financière.
Toutes ces questions seront évoquées bien sûr lors du conclave qui va commencer, on le disait, dans quelques heures.
D'ailleurs, le profil du futur pape se trouve peut-être dans le constat et les pistes que nous venons de dresser, à savoir un homme capable de rigueur économique et de gestion humaine, le tout évidemment en préservant les valeurs de l'Église. Puisque la tâche s'annonce difficile, mais en économie, contrairement à la religion, les miracles, eux, se font un peu plus rares, Andréane.
Merci Stéphane Genest. 8h20 à Paris, on passe à notre invité international. Aujourd'hui, cette messe l'a fait 3 ans, jour pour jour, que les Français Jacques Paris et Cécile Kohler sont emprisonnés en Iran, accusés d'espionnage par Téhéran. À cette occasion, RFI reçoit ce matin dans nos studios Noémie Kohler, la sœur de Cécile Kohler, qui répond aux questions d'Arnaud Pontus.
Bonjour Noémie Kohler.
Bonjour.
Et merci d'être sur RFI ce matin. Cela fait donc 3 ans aujourd'hui que votre sœur et son compagnon ont été arrêtés en Iran. Les autorités les accusent d'espionnage. 3 ans de captivité, c'est évidemment très long. Comment vont-ils ?
Alors ils vont de plus en plus mal, hein. Les dernières nouvelles qu'on a d'eux datent de lundi, ce lundi 5 mai. Ils ont pu appeler mes parents en visio sous haute surveillance comme d'habitude. On sent vraiment que leur morale décline de plus en plus, ils sont à bout de force. Le visage de Jacques est de plus en plus marqué par la détention, on sent qu'il... Ils meurent à petit feu dans leur cellule. Ma sœur nous a parlé de poèmes qu'elle écrivait dans sa tête, donc elle a confirmé qu'au bout de 3 ans, elle n'a toujours pas de quoi écrire.
Oui, des poèmes qu'elle écrit dans sa tête, ça veut bien dire qu'elle n'a ni papier, ni stylo, qu'elle n'a accès à rien de tout ça.
Absolument. Elle les écrit dans sa tête, elle les répète tous les soirs avant de dormir pour être sûre de ne pas les oublier.
Ouais.
Donc c'est des conditions toujours aussi dures, hein. Ils n'ont toujours pas de meubles, ils dorment toujours à même le sol, ils ne peuvent voir la lumière du jour que 3 fois par semaine pendant une demi-heure dans une cour si les sorties ne sont pas annulées. Les contacts qu'ils ont avec l'extérieur, ce ne sont que ces appels qu'ils nous passent de manière très aléatoire sous haute surveillance et très court. Là, l'appel a duré 8 minutes, c'est vraiment très court, et depuis quelques mois on leur fait aussi un chantage au verdict qu'on leur annonce extrêmement sévère avec des échéances qui ne se réalisent jamais.
Ça, c'est ce que vous raconte votre sœur quand vous l'avez en ligne. Elle vous dit son état d'esprit et elle vous dit ce que lui disent ses geôliers, c'est ça ?
Oui, absolument. Donc, appel après appel, elle demande si on a des informations sur la libération, sur les négociations de la libération. Et elle nous dit qu'elle est terrifiée par ce verdict qu'on lui annonce dans 2 à 3 semaines. Et appel après appel, il y a toujours une autre échéance et c'est vraiment de la torture psychologique.
Oui. Verdict, alors qu'il n'y a, à notre connaissance et à la vôtre, pas eu de procès, pas eu de rencontre d'avocat, pas eu de jugement et donc pas de verdict. Enfin, on ne sait rien en fait de ce qu'ils vivent et de la procédure judiciaire éventuelle qu'ils subissent.
Non, on ne sait rien du tout. Les avocats qu'on a mandatés après leur arrestation n'ont toujours pas accès au dossier, ils n'ont toujours pas pu les voir. Leur droit à la défense est complètement bafoué et on n'a aucune information fiable sur la procédure.
Ouais, vous nous disiez il y a un instant, il meurt à petit feu. C'est ce que vous aviez dit pour alerter des sénateurs français en mars dernier. C'est de plus en plus votre sentiment, Noémie Kohler.
Absolument, leur morale décline, ils n'ont plus de force, ils sont vraiment à bout de force, et on est terrifiés vraiment par leur morale qui décline et leur apparence physique aussi qui se dégrade après appel après appel.
Oui, et ces appels, vous le disiez, ils sont erratiques, hein. On ne sait pas quand vous allez être appelé. Ils sont très espacés dans le temps. Comment
alors,
ça se passe?
En moyenne, c'est moins d'une fois par mois, même si dernièrement, on a eu 2 appels avec des intervalles.
Il y avait donc
lundi,
il y a 2 jours, voilà. Et le 14 avril, c'était le précédent, c'est ça?
C'est ça. Mais oui, c'est très aléatoire. Il peut se passer 3 mois sans qu'on ait le moindre signe de vie et sans qu'on sache pourquoi. Donc c'est vraiment au bon vouloir de leur geôlier.
Oui. Et à chaque fois, le même message, ils vous parlent très peu de temps et pour vous dire, pour vous demander des nouvelles, en fait. Parce que eux n'en ont pas.
Eux n'en ont pas, ou alors, on leur en donne. C'est vrai que l'année dernière, on leur a promis une libération imminente à plusieurs reprises et ça a brisé leurs espoirs et je pense que ça a contribué d'ailleurs à dégrader fortement leur morale et leur combativité.
Alors, ils sont tous deux officiellement les 2 derniers otages emprisonnés en Iran. Considérés par la France comme otages d'État. Est-ce que vous comprenez pourquoi leur captivité est aussi longue puisque nous arrivons aujourd'hui même à 3 ans ?
Bah pour nous, c'est vertigineux, c'est incompréhensible. On n'aurait jamais imaginé que ce soit aussi long. Après, voilà, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un acharnement particulier sur eux de la part des autorités iraniennes. Nous, ce qu'on interprète avec voilà nos informations, c'est notre interprétation, notre hypothèse, c'est que c'est un dossier qui est particulièrement médiatisé par les autorités iraniennes et on pense que l'acharnement vient de là.
Et ce qui a été médiatisé, c'est leurs faux aveux, les aveux qui leur ont été extorqués et qui ont été filmés, c'était en octobre 2022, où ils s'accusaient d'être des espions.
Oui. Oui, oui, absolument. Ça a été un énorme traumatisme pour nous parce que, voilà, c'est à ce moment-là, on n'avait aucun signe de vie d'eux. Hein. Ça a duré 7 mois après leur arrestation et cette vidéo de faux aveux est tombée comme ça à cette période-là et ça a témoigné en fait des mauvais traitements dont ils avaient été victimes.
Oui. Ils subissent une torture psychologique, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein.
Non, il n'y a aucun doute. De toute façon, les conditions de détention en soi peuvent être assimilées à de la torture selon le droit international, notamment les règles Nelson Mandela de l'ONU sur la détention. Nous, on perçoit en fait cette pression psychologique qui s'exerce sur eux lors des appels et lors des rares visites consulaires qui leur sont accordées.
Oui, on parle de diplomatie des otages. Téhéran ferait pression ainsi pour obtenir des libérations de ressortissants iraniens ou obtenir une levée des sanctions internationales. Que vous disent les autorités françaises quand vous êtes en contact avec elles ?
Alors, sur ces questions-là, elles ne nous disent pas grand-chose. C'est vrai que nous, en tant que famille, on est gardés totalement à l'écart de ce qui se peut... de ce qui peut se jouer. On a rencontré le président Emmanuel Macron en février qui nous a donné quelques pistes, mais au-delà de ça, c'est vrai que ce qu'ils veulent exactement en échange de nos proches, ça reste un mystère.
C'est un mystère total. Est-ce que vous vous sentez suffisamment soutenu par les autorités françaises ?
Oui, alors on est pris en charge par le centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay depuis le départ. C'est vrai qu'on a attendu très longtemps à ce qu'il y ait vraiment des prises de position publiques de la part des autorités françaises, parce que pendant longtemps, on nous a demandé de nous fier à l'invisible. Depuis janvier 2025, c'est le cas. Donc effectivement, on a pas mal de répondants à l'heure actuelle de la part des élus et des autorités françaises, et c'est très important pour nous.
Est-ce que votre sœur est au courant de la mobilisation en France, puisque aujourd'hui même pour ces 3 ans et pour marquer cette journée, une 40aine de rassemblements sont organisés dans le pays? Est-ce que vous lui en parlez quand vous l'avez en ligne?
Oui, absolument. Ben justement, ce qu'elle nous demande, c'est des informations sur sa libération. Or, on n'en a aucune, donc c'est vrai qu'on donne tout ce qu'on a pour pouvoir la rassurer. Et la mobilisation, c'est vraiment les éléments qu'on peut lui donner pour lui faire tenir le coup. Et lors du dernier appel lundi, elle nous a dit que c'était ce qui lui permettait de ne pas sombrer, de savoir qu'elle était aussi soutenue en France. Donc c'est extrêmement important.
Donc c'est extrêmement important que vous soyez là, qu'il y ait du monde au rassemblement dans les prochaines heures.
Oui.
Quel message vous vous déportez particulièrement aujourd'hui ?
Ben pour nous, l'important, c'est d'interpeller les autorités iraniennes sur leurs responsabilités et voilà, d'exiger encore une fois la libération immédiate de Cécile et Jacques.
Vous avez parlé de leur désespoir. Est-ce que vous y croyez toujours ? Est-ce qu'il vous arrive, vous aussi, d'être découragé, Noémie Kohler ?
Découragée, oui, mais par contre, je m'accroche et nous accrochons vraiment au fait qu'ils vont revenir. Si un jour on imagine qu'ils ne reviennent pas, on s'effondre. Donc oui, on s'accroche et on garde espoir, on gardera espoir jusqu'au bout.
Les autres otages français sont revenus, donc ils reviendront.
Oui, oui, on espère.
Voilà. Qu'est-ce qui vous aide ? Qui vous aide ? Cette mobilisation aussi, c'est ce qui vous porte, vous ?
Oui, absolument. On a de plus en plus de soutien. Les amis de Cécile qui sont très présents depuis le départ. Il y a aussi les anciens otages qui sont revenus, qui se sont tous engagés à nos côtés pour la mobilisation, ainsi que leur famille. Et énormément de soutien par ailleurs, des élus, des avocats. Oui, nous, c'est ce qui nous permet d'avancer jour après jour. Ouais.
Merci beaucoup, Noémie Kohler, d'être venue ce matin sur RFI.
Merci à vous.
Et on espère que la prochaine fois qu'on ouvrira nos micros, une colère, ce sera Cécile et qu'elle sera rentrée.
J'espère aussi.
Merci. Bonne journée beaucoup. À vous.
Cet entretien avec Arnaud Pontus à retrouver sur notre site RFI.fr.
Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
comment vivre avec des TOC, les troubles obsessionnels compulsifs.
Demain,
prendre soin de sa santé quand on est en situation de handicap.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Le journal en français facile Adrien Delgrange.
Je vous retrouve du lundi au vendredi pour un journal d'information internationale.
Je suis Jonathan, je viens de Toronto. J'écoute la journal en français facile parce que je peux apprendre un peu plus sur le monde de la point de vue de la France.
Le journal en français facile avec Adrien Delgrange, c'est tous les jours de la semaine à 16h temps universel sur RFI. Ce mercredi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Juliette Gerbrand.
En mai 2015, l'ONG SOS Méditerranée lançait sa première opération. 10 ans plus tard, les sauveteurs sont toujours là. Nous entendrons les témoignages exceptionnels de 2 survivants d'un canot secouru après une semaine d'errance en mer. Et Fabienne Lassalle, directrice adjointe de l'ONG, sera notre invitée.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 17h10 TU sur RFI.